Talmant d'Héréo, historiette, conte sur le mariage. Milord Digby était un homme de qualité en Angleterre qui aimait fort les secrets. Il a cherché la pierre philosophale. La peinture était une de ses passions. Or, cet homme avait une femme qui était une des plus belles personnes de l'Angleterre. Il l'aimait tendrement, mais il voulait bien qu'on le sût. Et comme il affectait le passé pour le meilleur mari du monde, et que son esprit se portait assez de soi-même aux choses extraordinaires, il fit peindre sa femme nue. Puis en mettant sa chemise, en habit du matin, habillé, coiffé de nuit, les cheveux épais se coiffant, bref, de toutes les manières dont il put s'aviser. Et comme elle mourut jeune, il la fit peindre dès le commencement de son mal, puis quand elle fut affaiblie, et ensuite quasi tous les jours, jusqu'à sa mort. Ses derniers portraits étaient bien faits, mais ils faisaient peur. Ils étaient tous de la main d'un excellent enlumineur. Feu Monsieur de Noailles avait un Suisse qui se mariait en tous les lieux où son maître faisait d'ordinaire du séjour. Il avait une femme en Rouergue, une en Gascogne, une en Limousin et une à Paris. Un homme qui fut en prison parce qu'il avait 4 femmes, interrogé à la Tournelle pourquoi il en avait tant épousé, répondit naïvement qu'il avait voulu pour voir s'il en trouverait une bonne. Que la première ne valait rien du tout, la seconde guère mieux. La troisième n'était pas si méchante et la quatrième un peu meilleure que la précédente et qu'il espérait enfin rencontrer ce qu'il cherchait. On trouva qu'il disait cela si bonnement qu'on se contenta de l'envoyer aux galères pour la punition de la folle entreprise qu'il avait faite. À propos de cela, outre la vigne qu'on dit que M. l'archevêque doit donner à celui qui, au bout de l'an, n'aura point de repentir de s'être marié, on dit qu'il y avait un curé à Sainte-Opportune qui disait au prône qu'il donnerait les pois pour le carême à ceux qui n'obéissaient point à leur femme. Quand il avait questionné les maris, pas un n'emportait de ses pois. Un crocheteur y alla, bien résolu d'en avoir. Le curé l'interroge sur la taverne, etc. Il ne le pouvait attraper. « Prenez donc des pois, lui dit-il. » Et comme le crocheteur remplissait son sac, « Vous deviez, ajouta-t-il, en prendre un plus grand. » « Je le voulais, dit le crocheteur, mais votre femme n'a pas voulu. »« Oh, je vous tiens, dit le curé, vous n'avez que faire de sac. » « Laissez mes pois. » Un marchand de Bordeaux, dont je n'ai pas pu savoir le nom, était amoureux de la servante de sa femme, et afin de pouvoir coucher avec cette fille sans que sa femme s'en aperçût, il obligea un des garçons de la boutique à tenir sa place pour une nuit, après lui avoir fait bien promettre qu'il ne toucherait point à madame. Ce garçon, qui était jeune, ne se put contenir et fit quelque chose de plus que le mari n'avait accoutumé de faire. Le lendemain, la femme, croyant que ça avait été son mari, car il s'était revenu coucher près d'elle un peu devant le jour, lui alla porter un bouillon et un couple d'œufs frais. Le marchand s'étonne de cet extraordinaire. « Eh !» lui dit-elle en rougissant, « vous l'avez bien gagné !» Par là, il découvrit le pot aux roses. Depuis, il accusa ce garçon de l'avoir volé et le mit en procès. Ce garçon dit le sujet de la haine de son maître, et par arrêt du Parlement de Bordeaux, la femme fut déclarée femme de bien et le mari cocu à juste titre. Ah, voici une autre histoire un peu plus tragique. Un gentilhomme de Beauce, entre Dourdan et Étampes, nommé Bailly Saint-Léger, avait une fort belle femme, et cette femme avait une femme de chambre aussi belle qu'elle. Le mari, comme on se lasse de tout, devient amoureux de cette fille. La presse, elle résiste, et enfin le dit à sa maîtresse. La femme dit « Oh, il faut l'attraper. Dans quelque temps, faites semblant de consentir, et lui donnez un rendez-vous. » Or, il arriva que le propre soir que Saint-Léger avait rendez-vous de cette fille, un de ses meilleurs amis vient chez lui. Pour s'en défaire, il le mène coucher bien plus tôt que de coutume. L'ami en a du soupçon, on veut savoir ce que c'est, il le lui avoue. Ce gentilhomme lui en fait honte et lui persuade de lui donner sa place. Il va au rendez-vous au lieu de Saint-Léger. Il trouve la femme de son ami qui, pour se moquer de son mari, avait joué tout ce genre. Il fait ce pourquoi il était venu. Elle a conté depuis que, de peur de rire, elle se mordait les lèvres. C'était dans un jardin, il ne faisait point clair de lune. L'ami revient bien satisfait et le mari se couche auprès de sa femme. Le récit que lui avait fait son ami lui avait fait venir l'eau à la bouche. Il veut en passer son envie. Sa femme lui dit en riant: Mais Seigneur Dieu, vous êtes de belle humeur ce soir. Que voulez-vous dire? Lui dit-il. Eh, répondit-elle, ne vous souvenez-vous plus du jardin? Le pauvre homme devina incontinent ce que c'était. Il fit semblant de rien, mais il fut saisi, si saisi qu'il en mourut. Elle, depuis, a été fort abandonnée et est morte de la vérole. Le comte de Saint-Pol, dernier mort, fut aussi attrapé par sa femme, qui prit la place d'une demoiselle, mais il ne put rien faire. Voyant cela, elle lui dit en riant: Vraiment, vous êtes un bel homme à rendez-vous. Oh, lui dit-il, je ne m'en étonne pas. Il sentait sa vieille écurie. Un président de Paris, dont on n'a jamais voulu me dire ni le nom, ni la cour dont il était président, ni même s'il vivait ou s'il était mort, tant on avait peur que je ne découvrisse qui c'est, un président donc fut averti par son clerc que sa femme couchait avec un cavalier. Prenez bien garde, dit-il à ce clerc, à ce que vous dites. Monsieur, répondit l'autre, si vous voulez venir du palais quand je vous y requérir, je vous les ferai surprendre ensemble. En effet, le clerc n'y manque pas, et le mari entre seul dans la chambre et les surprend. Il enferme le galant dans un cabinet dont il prend la clef et retourne à son clerc. Un tel, lui dit, je n'ai trouvé personne, voyez-vous même. Le clerc regarde et ne trouve point son cavalier. Vous êtes un méchant homme, lui dit le président. Tenez, voilà ce que je vous dois, allez-vous-en, que je ne vous vois jamais. Il le met dehors. Après, il revient au cavalier. Monsieur, c'est ma femme qui a tort. Pour vous, vous chercherez votre fortune, allez-vous-en. Mais si je vous rattrape, je vous ferai sauter les fenêtres. Pour sa femme, quand elle fut seule, il lui dit qu'il ne savait pas de quoi elle pouvait se plaindre, qu'à son avis, elle avait toutes les choses nécessaires. Elle pleura, elle se jeta à ses pieds, lui demanda pardon, et lui promit d'être à l'avenir la meilleure enfant du monde. Il le lui pardonna, et depuis, elle lui a rendu tous les devoirs imaginables. Un conseiller d'état de l'infante Claire Eugénie avait une belle femme, et quoiqu'ils n'eussent guère de bien, leur maison allait pourtant comme il fallait, et ils faisaient tout fort bonne chère, car la galante en gagnait. Cela dura assez longtemps sans que le mari s'informât d'où venait cette abondance. La femme, étonnée d'une si grande stupidité, peu à peu, pour voir s'il s'apercevait de quelque chose, diminua l'ordinaire. Il ne disait rien et faisait semblant de ne le voir pas. Enfin, elle retrancha tant qu'elle le réduisit à un couple d'œufs. Alors, la patience lui échappa. Il prit les 2 œufs et les jeta contre la muraille en disant: Est-ce là le dîner d'un cocu? Elle, voyant qu'il entendait raillerie, remit dès le lendemain les choses dans leur premier état. J'ai ouï faire ce conte aux France d'un François, et je pense qu'il est de tout pays. Mais il n'en est pas moins bon pour cela. Monsieur Guy, célèbre traiteur à Paris, ne trouvant ni sa femme ni un de ses principaux garçons, une fois qu'il avait bien des gens chez lui, alla fureter partout et les rencontra aux prises. Ah, vertu Dieu, se dit-il, c'est bien se moquer des gens que de prendre si mal son temps. Pouviez-vous pas attendre que nous eussions un peu moins d'affaires?